Là, nous, on est les petits, avec Anaïs Pellet, on est les petits artisans de ce PLU patrimonial qui concerne le secteur que l'on appelle la ville de pierre. Puisque outre la façade des quais, le secteur historique de Bordeaux, il y a aussi tous ces quartiers résidentiels qui tournent autour de ce centre historique et qui sont contenus à peu près entre les cours et les boulevards de Bordeaux. Ces quartiers d'habitation sont fortement marqués par leurs pierres et sont rythmés soit de maisons de ville, soit des shops, les shops simples, les shops doubles, parfois des hôtels particuliers que l'on va trouver dans des secteurs plus bourgeois que sont Saint-Seurin, Sainte-Eulalie, parfois des chais, des entrepôts que l'on trouve dans les quartiers des Chartrons, les quartiers Paludate qui étaient en activité avec le port de Bordeaux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ville de pierre ? Bon, alors, cette ville de pierre, c'est évidemment des maisons à un étage, à deux étages. C'est une architecture domestique, parfois modeste, parfois plus élaborée. Et nous, notre travail va consister à regarder ce paysage qui est formé par cette pierre. Effectivement, pour avoir un PLU patrimonial, il faut avant tout avoir une connaissance de ce territoire, mais précis, c'est-à-dire aller tous les jours sur le terrain, dès que la météo nous donne la possibilité, donc c'est quand même très souvent, et de faire un état des lieux de cette ville. État des lieux, parcelle après parcelle, Anaïs Pellet, avec sa machine élaborée, va entrer... des éléments architecturaux, des éléments techniques, va faire évidemment une description assez détaillée de cette parcelle. Et on va, dans un premier temps, se dire, voilà, est-ce que cette construction va être protégée ou pas ? C'est ça la finalité. Est-ce qu'on la protège, est-ce qu'on la protège pas ? Donc, c'est un ensemble de pierres et ce ne sont pas des objets les uns à côté des autres. On regarde la rue, on regarde l'ensemble de la rue et on se dit, est-ce que cette construction est à conserver dans ce paysage de rue ? Pourquoi un PLU patrimonial ? Parce qu'il faut aussi penser à cette fragilité, à ces objets-là qui, individuellement, s'ils sont trop transformés, trop mis à mal, il y a comme quelque chose qui est un peu irrémédiable. On va en croiser quelques-unes, mais une maison à qui l'on va... alors, la pierre va être revêtue d'un enduit, d'un parement. On va modifier les fenêtres, modifier les portes. On va y installer des volets roulants pour un confort soi-disant thermique ou phonique. Et petit à petit, ces éléments qui vont venir perturber la construction d'origine, à force, les uns après les autres, vont détériorer un paysage d'ensemble. Et on va se dire qu'il est important de protéger. Alors protéger, ça ne veut pas dire figer, ça ne veut pas dire conserver. Hein. On permet l'évolution de cette construction et on va permettre l'agrandissement de cette construction. Mais très souvent, et on va en voir quelques-uns dans notre balade, très souvent on va donner de l'évolution et de la construction à l'arrière. Parce qu'il faut savoir que ces rues de pierre, ces façades... très minérales ont en fait dans le cœur des îlots à la différence du centre historique très dense des cœurs très verts avec des jardins, parfois de très grands jardins, parfois de très grands îlots et donc il y a des possibilités d'évolution de chaque parcelle, des possibilités d'agrandissement. Parfois on va trouver aussi dans ces rues des jardins sur rue que l'on trouve intéressants parce qu'ils participent à ce paysage. Et là aussi, ces jardins sur rue vont être protégés. On va parfois même jusqu'à protéger la clôture. Lorsque la clôture est très élaborée et elle fait partie de l'ensemble avec sa construction principale, là aussi la clôture peut être protégée. Bon, alors,
Il y a des outils pour tout dans le PLU pour ça ?
Alors on essaye avec ce PLU patrimonial, voilà, effectivement, d'insister sur quelques éléments. Alors par exemple, une séquence. Lorsque l'on a une séquence que l'on va croiser un peu plus loin, une séquence urbaine avec par exemple un ensemble de constructions, des shops rez-de-chaussée où file l'élément toiture, où file le rythme des façades, où file les sous-bassements, eh bien là on va décider par exemple que toute cette séquence doit être protégée. Si à l'intérieur de cette séquence il y a une maison qui a été très, très abîmée par le temps, très abîmée par ces transformations dont je parlais tout à l'heure, eh bien on va peut-être aussi la protéger parce qu'elle fait partie d'un ensemble cohérent. Mais comme je le disais, ça ne fige rien. Et parfois, on ne donne pas, on ne protège pas la construction. Elle a été trop bouleversée et ça devient irrémédiable. Lorsque l'on ne la protège pas, qu'est-ce qui va être possible? Il est possible soit de démolir cette construction ancienne et d'en faire quelque chose de neuf, soit il est possible de conserver cette construction et de la transformer au maximum, si l'on veut. Par exemple, ici, on ne sait pas ce qu'il y avait autrefois. C'est une construction de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais ce qui est intéressant là, pourquoi je voulais vous la montrer? Parce que la ville moderne, finalement, respecte et conserve un gabarit de la ville ancienne. Et c'est en là où le rapport est intéressant. Donc on peut tout à fait, en rupture totale avec, dans les matériaux en tous les cas, en rupture avec la ville de pierre, on va trouver quand même une certaine composition et un gabarit qui va rentrer en cohérence avec la ville ancienne et finalement va être beaucoup moins bouleversant pour le tissu dans lequel s'insère la construction neuve.
Là par exemple, un bâtiment comme ça, dans le PLU, vous ne favorisez pas sa destruction?
Non.
Dans l'idée d'avoir quelque chose qui reviendrait avec les mêmes séries, les mêmes niveaux, la même hauteur,
le
etc.
Même
mais avec d'autres matériaux qui ne seraient pas en rupture au niveau des couleurs et plus sur de la pierre. Non, vous gardez, enfin vous ne favorisez pas ça. Voilà.
On ne protège pas ce bâtiment. Parce que pour nous, c'est pas un bâtiment qui rentre dans le vocabulaire de la ville de pierre. On va pouvoir donner, sans le protéger, on va lui donner des possibilités d'évolution. Mais par contre, quand on va accompagner un porteur de projet qui va venir avec une construction neuve s'insérer entre deux constructions anciennes, on va accompagner ce porteur de projet afin d'y retrouver des correspondances de niveau, de rythme et parfois de matériaux. Mais aujourd'hui, le choix peut être très en rupture. Hein. On va trouver des choses dont on voulait vous montrer. Voilà.
Ok.
On va aller dans une rue un peu plus maltraitée. Il ne reste finalement plus grand-chose de l'élément ancien, de la construction ancienne. Là, pour le coup, on offrirait aux propriétaires de la parcelle une possibilité d'agrandissement dans la hauteur.
Ouais,
c'est-à-dire que quelque chose de plus contemporain pourrait venir s'attacher soit à la corniche du bâtiment de droite, soit même venir s'attacher à celle de deux niveaux, à cette maison plus élevée. Mais là, pour le coup, les ouvertures...
C'était plus haut de toute façon à la base.
Oui, on pourrait. Ouais. Oui, c'est en ça que...
Il n'y avait même pas une esquive, il y avait même déjà un niveau supérieur, non?
Alors on va vous allez voir, c'est le paysage commun de la ville de pierre,
ouais.
C'est-à-dire qu'il y a ces pierres d'attente qui attendent justement que viennent s'insérer une future construction.
D'accord.
Donc on en voit très souvent. C'est-à-dire que le paysage de la ville de pierre, c'est une alternance de maisons de ville et des shops. Donc on va avoir comme ça un jeu de pignons très régulier, très souvent, entre des dents creuses importantes, entre une échoppe rez-de-chaussée et une maison de ville à deux étages, voire parfois des petits collectifs du 19e siècle de trois niveaux. Et on a cette rupture comme ça des hauteurs. Mais voilà, ça reste quand même dans un gabarit constant. On va en voir
mais,
et on va
parler. Du coup, cette alternance, elle n'est pas patrimoniale. Enfin, du coup, l'objectif du document d'urbanisme, c'est pas de la garder, c'est, ça peut être de permettre une mise à niveau.
Parfois, ça permet, voilà. Parfois, ça peut venir, tout à fait.
De mètres carrés supplémentaires, de densification.
Oui. Alors, parfois, voilà, exactement. Parfois, ça va pouvoir accueillir une surélévation, bien que la ville souhaite vraiment conserver cette idée qu'on puisse surélever sur l'arrière. On va voir des constructions qui ont fait ça, mais il y a aussi parfois ce paysage-là est maintenu. C'est-à-dire que ce jeu de dents creuses des hauteurs participe de ce paysage et on le maintient. Mmh. Et donc une échoppe n'est pas surélevée. Si on surélève toutes les échoppes, il n'y a plus d'échoppe. Mmh. Et on n'a plus que des maisons de ville.
Ouais.
Donc il faut aussi garder l'objet échoppe en tant que tel en rez-de-chaussée.
Et en façade, on va dire. Parce que du coup, l'extension...
Et en façade. Enfin,
voilà.
Alors, façade. C'est pas une architecture de façade.
Non, non.
On parle, vraiment, on insiste sur auprès de nos habitants sur la construction. Parce qu'on n'est pas dans une architecture de façade. Hein. Il est important que ce qui se passe dans l'ensemble, c'est-à-dire la toiture, la façade côté jardin, soit un ensemble cohérent.
Et les habitants eux-mêmes, enfin, on va avancer, mais les habitants eux-mêmes considèrent que
Nous, on rencontre les habitants quand on fait ce travail de terrain. C'est-à-dire qu'on est devant leur maison. Anaïs intègre dans sa machine élaborée tout un tas d'éléments. Donc, on reste 2-3 minutes face à une maison. Et alors, moi, je prends des photos pour faire un portrait de cette parcelle. Là, l'habitant vient nous parler et on va lui raconter pour quel est notre travail et pourquoi on passe dans leur rue. Parce que comme un îlot peut parfois nous prendre plusieurs jours, ils vont nous voir comme ça plusieurs jours avec des photos. Donc évidemment, la curiosité fait qu'ils vont venir nous interroger. Ils le vivent dans un premier temps un peu comme une contrainte. Effectivement, patrimoine, contrainte, on va m'empêcher d'eux. Mais en réalité, il suffit juste d'accompagner cette idée d'évolution de leur construction. Un enfant arrive, deux enfants, un parent revient habiter, etc. Donc il faut permettre cette évolution. On va les accompagner pour leur montrer combien leur échoppe de base, petit objet de 50 mètres carrés, où finalement l'évolution est un peu contrainte. On va valoriser... Enfin, c'est quand leur construction est protégée, qu'on leur dit que ça fait partie d'un paysage, que ces objets-là sont très singuliers dans Bordeaux, c'est un paysage singulier de la ville de Bordeaux, ils vont comme ça nous dire « Ah bah si ça a de la valeur, oui. Bon, alors là ils entendent plus et puis finalement on arrive toujours dans un compromis à trouver des possibilités d'évolution parce que gagner dans la pente de toiture une évolution sur l'arrière, c'est gagner un étage, sans problème.
Et là justement le fait que ça donne éventuellement une valeur foncière majoré, ça rentre dans
bien
le deal
sûr,
et
parce que l'habitant
a
une part, prend en compte la valeur évidemment économique de son bien, parfois même bien avant le patrimoine et bien avant tout ça. Ouais. Et effectivement, il faut aussi l'entendre, le considérer. Donc, on n'interdit pas le volet roulant en PVC, mais on essaye, lorsque l'habitant vient déposer son permis de travaux ou son permis de construire, on vient lui dire, voilà, vous savez qu'il y a tout autant de performance avec le bois. On essaye de sensibiliser un peu nos habitants sur ces questions-là.
D'accord.
Voilà, alors on a deux soubassements. On a un soubassement assez élégant, assez élevé. Ça montre que sans doute la maison a été surélevée. Et on a ces deux soupiraux. Alors celui d'origine, c'est celui de droite. Et le propriétaire a eu l'ingénieuse idée pour pouvoir stocker ses poubelles, parce que les poubelles à Bordeaux sont individuelles. Il a fait ce petit travail de recul de la fenêtre de soubassement Il a pu y intégrer son compteur électrique qui vient pas abîmer sa pierre de façade, et il a pu intégrer voilà son rangement poubelle. C'est des petites choses que les habitants voilà, on prend toutes ces idées comme parfois des élaborations intéressantes pour faire évoluer la maison sans trop la dénaturer.
Ouais,
c'est
ouais.
Des demandes de plus en plus importantes ouais. Aujourd'hui. Les gens veulent pouvoir faire des choses sur leur toiture. Et, mais nous avons la même importance donnée à cette cinquième façade. Surtout à Bordeaux, où de façon générale, la ville de pierre est assez basse. Hein. On a effectivement ces maisons à un étage, deux étages, ces échoppes, qui permet quand même d'avoir un aperçu lorsqu'on peut avoir du recul sur les espaces publics, etc., de toutes ces toitures. Et bon, il est important aussi d'accompagner les habitants dans leur ouais. transformation.
Ouais.
Mais bon, par un petit outil qui est un petit œil. Des points de vue à maintenir.
Ouais.
Donc parfois, alors là, bon, celui-ci, c'est pas forcément celui qu'on va privilégier,
ouais,
mais
ouais.
un point de vue sur, ouais, ouais. Sur une église ou un point de fuite intéressant, on, ouais. va on peut l'inscrire sur notre PLU. Et ça donne comme indication à l'architecte conseil et à l'urbanisme du secteur qu'ici, un élément qui viendrait flouter cette perspective serait pas la bienvenue. Et ça, voilà, ça permet d'argumenter pour nos services auprès de l'habitant qu'ici, un point de fuite peut être intéressant. Ça peut être aussi un point de fuite sur un arbre, hein, comme on en a ici.
Ouais, 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 ouais.
Parce que, comme je vous disais, ces cœurs d'îlots verdoyants apparaissent comme ça partout dans la ville lorsqu'on déambule. Les arbres qui sont parfois de grands éléments.
Ouais, ouais.
Quand je parlais tout à l'heure des jardins que l'on maintient sur la rue, là on a un paysage typique de la ville de pierre, donc une alternance de jardins, de maisons à étage, d'échoppes, d'une petite échoppe double. Et puis on voit ces respirations et cette verdure l'été au printemps débordée sur la rue. Ça, ce sont des paysages que l'on souhaite maintenir, protéger. Après, effectivement, je vous parlais de protection de clôture. Là, pour le premier cas que l'on découvre là, c'est évidemment pas possible. On ne va pas protéger ce mur qui clôture le jardin. Mais par contre, on va maintenir l'espace non constructible juste à l'arrière. Parlons du garage, puisqu'on en a un sous les yeux. Le garage, évidemment, alors la construction principale est protégée. Sa petite annexe qui, avec l'histoire, a été transformée en cuisine dans le prolongement, va être maintenue. Par contre, on permet une évolution si la pierre est retravaillée, puisque là, l'enduit est vraiment pas très heureux. Et puis, le petit garage juste après l'arbre ne va pas être évidemment protégé parce que sa forme est en rupture. Voilà, les matériaux sont pas du tout soignés. Mais par contre, on maintient son emprise, c'est-à-dire qu'on donne la possibilité au propriétaire de pouvoir y faire des travaux. Et la hauteur est maintenue. On va mettre un filet à 4 mètres maximum, c'est-à-dire c'est une petite construction de fond de parcelle qui est dédiée soit à un studio, soit ici un garage. On voit plus loin une construction avec deux pans de toiture. Ça, c'est aussi des constructions que l'on croise régulièrement dans la ville de pierre. Ça fait une petite surprise dans le paysage plutôt homogène de façade. Tout d'un coup, plaque. Alors ça rappelle un peu nos petits entrepôts disséminés dans le cœur de la ville, dans cette ville de pierre que l'on maintient. Un point de vue, un point de fuite sur la caserne des pompiers, années 70, typique, construction très géométrique, très rigide. Bon, et pourquoi pas la maintenir, puisqu'elle participe aussi de ce paysage de rue. Voilà. Là, on a quelque chose de vraiment très commun, très domestique, mais à conserver.
Okay.
Est-ce
yes.
que Oui.
Est-ce que ce bâtiment-là, on est dans le cadre d'une surélévation, est-ce qu'on voit le trait de...
Alors on voit le trait de corniche, mais il faut savoir que on croise très souvent des échoppes qui, au 19e siècle, ont été surélevées. Et là, c'est sans doute à l'origine une maison à étage qui, au 19e siècle, a dû être bouchée, fermée et surélevée. C'est assez bien fait. Ça prolonge la ligne de corniche de la maison mitoyenne. Souvent des ateliers, on en a beaucoup, on en a sur les pieds de Bordeaux, on en voit des choses comme ça. C'est le 19e siècle qui parfois est venu rajouter un niveau en hauteur.
Là par exemple, tu nous parlais donc de la porte de garage avec le volet métallique.
Oui.
De l'autre côté, il y a un volet métallique roulant,
oui.
Celui d'un commerce.
Voilà.
Et
alors si on a la chance un jour de croiser le propriétaire parce qu'il veut faire des travaux, imaginons qu'il veut que la fenêtre qui a son soupirail en PVC, si demain ce propriétaire veut faire un atelier, transformer en activité une petite activité, il veut en faire une porte, on va l'accompagner pour ouvrir cette porte, lui dire d'accord, l'appui de fenêtre disparaît, on trouve quelque chose de cohérent avec l'ouverture porte juste à gauche. Eh bien, on va solliciter ce propriétaire pour que cette grille en fer puisse être transformée, retravaillée. On essaye de soigner le bâtiment en accompagnant un projet. Et on essaye de résoudre quelques désordres.
Alors accompagner, ça veut dire qu'il y a dans le PLU une règle qui va quand même
contraindre.
Forcer le pétitionnaire. C'est pas simplement une règle assez générale.
Voilà.
Et derrière, il y a un dialogue et des recommandations, des
beaucoup d'échanges. Voilà. Il y a souvent.
Qu'est-ce qui est mis en avant quand même au travers du PLU en tout cas. Dans un PLU, on peut aussi trouver, c'est pas forcément souhaité ou souhaitable, mais quelque chose de très prescriptif. Et puis parfois, une rédaction de l'article 11, par exemple, anciennement article 11, où on est plutôt sur de la recommandation, il est souhaitable, il est recommandé.
Exactement, on laisse une grande souplesse, on essaye de donner plus de souplesse pour donner à l'instruction. Ces recommandations et essayer de parce que c'est difficile de, puisqu'il y a des raisons économiques, il est difficile de, sur un si large territoire, de contraindre tous les habitants sur des matériaux, sur des on peut par contre accompagner en disant vous utilisez de la pierre, il faut qu'elle ait une épaisseur minimale pour qu'elle soit résistante et qu'elle tienne, parce que votre bâtiment, si vous prenez juste un parement de pierre de 2 cm, avec le temps et assez rapidement, ça peut se décoller, s'abîmer, l'eau peut plus facilement s'y insérer.
D'accord. Il peut y avoir par exemple l'obligation d'une épaisseur de pierre inscrite dans le PLU.
Voilà, on peut le contraindre.
Vous laissez le choix de la pierre.
Le choix de la pierre, mais l'épaisseur par contre, il faut un minimum de 4 cm quand même, pour que ça tienne bien et que ça résiste au temps. De ne plus traiter et de ne plus mettre de produits corrosifs sur les trottoirs. Ouais. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui la végétation croit largement et c'est de l'ordre de l'entretien de l'habitant. Alors il y a des rues où les habitants viennent nettoyer leurs pas de porte et puis des rues où finalement on laisse. Là c'est après les réactions sont diverses et variées. Il peut y avoir des habitants qui trouvent ça fait sale et puis d'autres qui vont préférer. Et c'est vrai qu'il y a aussi, de la même manière qu'il y a une élaboration et un décor qui appartient à la construction, là, l'habitant va y mettre des...
Parce que quand on parle d'appropriation aussi des enjeux de la ville, le rapport au végétal dans la ville qui se joue à travers le fait qu'on accepte ou pas le pissenlit, c'est un élément majeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'approprie aussi le bout de trottoir qui est devant chez lui, soit pour le décaper, soit pour le, au contraire le végétaliser, à mon avis, il est aussi beaucoup plus sensible, du coup,
à l'aspect et à l'entretien de,
à l'entretien de son bâtiment, sa propriété. Oui. Enfin, il a conscience que c'est aussi un enjeu commun.
Voilà, tout à fait. Alors, dans un premier temps, il va trouver ça un peu difficile d'aller tous les jours désherber ou tous les trois jours désherber. Ouais. Et puis finalement, au contraire, il va se sentir investi. L'espace public, finalement, la rue confidentielle est un peu à lui, un peu à tout le monde.
Ouais.
Et on a comme ça des espaces d'appropriation à certains.
Ouais.
La rue Kléber en est un bon exemple. Les gens ont vraiment débordé sur la rue. Elle est devenue complètement piétonne. Et aujourd'hui, les habitants vivent dans leur rue.
Ouais. À Nantes, il y a aussi une rue comme ça qui est célèbre. Il y a depuis quasiment une vingtaine d'années, les habitants se sont appropriés vraiment l'espace public, mais au sens où eux-mêmes, ils ont totalement végétalisé. Au début, c'était un peu à l'arrache, c'est-à-dire c'était à la baramine, on s'est soufflé le bitume. Il y a eu des discussions un peu houleuses avec les services techniques
au départ.
Chacun entend
la parole de l'autre correspond sur... Il faut trouver un terrain d'entente entre les services techniques et effectivement les habitants qui parfois disent que c'est à la ville d'entretenir les trottoirs.
Mais je trouve que c'est, effectivement, nous on est là pour parler d'urbanisme, mais forcément l'espace public en fait partie. Et dans ces logiques d'appropriation de ces enjeux patrimoniaux, l'implication des habitants dans une gestion partielle de l'espace public, je trouve que c'est intéressant.
C'est vraiment intéressant.
C'est
une bonne... la rue Kléber qui est dans le sud de Bordeaux, dans les quartiers sud, ça a fait des petits parce qu'on voit partout les habitants plantés. Alors, c'est à qui aura la plus belle rose crémière, qui aura la plus belle vigne, etc. Il y a des enjeux d'embellissement de sa ville en entier. On n'est plus dans j'embellis mon jardin, ma maison. Il y a aussi j'embellis l'espace public qui est à tous. Et il faut savoir accepter qu'un chien ou quelqu'un vienne salir ce pas de porte.
C'est intéressant. Allez, étape suivante.
Quand je vous parlais de clôture protégée, ça c'est typique d'une clôture qui a été qui est venue en même temps que sa maison en retrait. Elle participe évidemment de l'alignement et de l'alignement de façade. Elle vient donner une respiration à cet angle. Elle accompagne cette transition entre un cours très agité et les rues plus confidentielles et résidentielles. Et elle est quand même très élaborée. Donc il y a une ferronnerie, il y a un muret, il y a des transparences, il y a des opacités. Ça fait partie du paysage de la ville de Pierre. Et là, la clôture est protégée. Si la clôture est protégée, c'est la même règle que pour les constructions. On ne l'empêche pas d'être restaurée, retravaillée, mais la ferronnerie sera maintenue. Le muret sera maintenu. En tous les cas, sa composition ensemble est conservée. Après, on peut faire évoluer les éléments. Si la ferronnerie est très, très abîmée, on peut évidemment venir y mettre quelque chose pour la tenir.
Là, elle est protégée, donc ça veut dire qu'elle est repérée dans les éléments, L123-1-7 anciennement,
exactement,
dans l'ancienne numérotation.
Oui.
Donc, bien sûr, il n'a pas le droit de dire « je remplace ça par une... »
Par une clôture PVC opaque qui ferait la même hauteur, mais où on ne verrait pas du tout.
Et puis à côté de ça, donc si l'habitant ne refait pas régulièrement un traitement anti-rouille et de la peinture,
Ça se dégrade, effectivement. Voilà. Il y a aussi, c'est ce que le PLU patrimonial de Bordeaux a d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça fait un peu plus de 10 ans qu'il existe. Aujourd'hui, les habitants se sont appropriés ce patrimoine et la majeure partie des habitants que l'on rencontre, lorsque l'on leur dit « votre clôture est protégée », il faut la maintenir en l'état. Alors, il va trouver que c'est intéressant parce que ça valorise son bien. Il va se dire, ah bon, ça a été repéré comme un élément patrimonial. Ah oui, mais moi, je voudrais y faire entrer ma voiture et donc je veux une porte coulissante. Eh bien, aujourd'hui, des fabricants de clôtures savent très bien faire ça, tout en conservant un aspect ancien, tout en s'intégrant dans une ferronnerie ancienne. On arrive à trouver des portes coulissantes de garage. C'est un coût peut-être un peu plus important, mais ça valorise le bien et ça le maintient, ça lui donne toujours une qualité en plus.
Donc il y a aussi des réponses en fait, techniques aux contraintes juridiques.
Complètement.
Ouais.
Ah oui,
de plus en plus, globalement, est-ce que la fabrication industrielle...
Comme nos fabricants de menuiserie sont tout à fait au courant qu'à Bordeaux... pas du tout favorable au PVC. Dans un premier temps, ils peuvent être un peu remontés contre la ville et sa politique. Et puis, aujourd'hui, on commence à voir ces fabricants de fenêtres venir nous montrer leur nouveau catalogue avec l'aspect ancien, le bois remis au bout du jour. Et on essaye, on se dit que peut-être on va... on va au moins lancer cette nouvelle fabrication de fenêtres à l'ancienne qui aurait les mêmes performances thermiques et phoniques que recherche le particulier lorsqu'il veut une fenêtre en PVC parce qu'il pense que c'est ce qu'il y a de mieux au niveau performance technique.
Mais... c'est ce qu'il y a de mieux au niveau coût aussi.
Et c'est ce qu'il y a de mieux au niveau coût, pas au niveau entretien.
Non.
Alors après, c'est toujours la jauge est toujours à équilibrer, c'est-à-dire est-ce qu'on ne va pas finalement avoir à plus entretenir quelque chose en PVC qui salit finalement assez vite parce que ce blanc plastique se détériore très très vite aussi.
Ouais. D'accord.
Les années 50 sans doute. Finalement assez bien traité, même si le jeu de la pierre a été camouflé, celle d'après, elle est.
Ah, c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure sur...
Les menuiseries viennent quand même beaucoup perturber...
Ouais. Les petites choses qui petit à petit dégradent la qualité globale.
Mais complètement remédiable. Hein. C'est-à-dire que là, évidemment, nous, on maintient cette petite série de deux échoppes. Et on ne donnera jamais de surélévation possible.
D'accord.
Le PLU l'interdira. Par contre, on a aperçu les arbres, donc le cœur d'îlot doit être assez important.
Ouais.
Les propriétaires doivent pouvoir prolonger leur toiture et trouver dans le prolongement de la construction sur l'arrière.
Et tu ne balades pas avec un escabeau pour voir un peu plus dedans, ou un télescope.
Alors on a dans notre... parce qu'on travaille avec un outil de géoréférencement assez technique, et on a évidemment toute une série d'images satellites pour que la métropole lance des campagnes à peu près tous les 3-4 ans, et on a des choses assez actualisées et on peut bien aller dans le détail. Hein. On est aussi performant que Google, hein, attention.
Et un petit détail aussi.
Si c'en est un. Hein.
C'est par exemple là l'évacuation d'un poêle à bois, peut-être quelque chose comme
ça. C'est une boulangerie qu'on trouve.
Ah, c'est une boulangerie, mais bon, en fait, il y a aussi.
Éléments qui ressortent sur les pignons, toitures, effectivement, le PLU n'impose pas, n'oblige pas, mais on va inciter à ce que ça soit le plus camouflé possible. Il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Les gens ne sont pas forcément au courant qu'il faut des autorisations.
Ouais, bien sûr.
Ils pensent qu'une sortie de fenêtre, une sortie de cheminée ou une extraction d'air, ça peut se faire sans autorisation.
Ah ouais.
Ça c'est l'histoire de la ville, ça a toujours été comme ça.
Ouais.
On ne va pas repérer toutes les choses qui sont détériorées. Mais...
Et du point de vue d'ailleurs de ce qui. Fait patrimoine comme du point de vue de ce qui peut altérer la qualité patrimoniale, pense que d'abord il y a des modes, il y a un peu des objets symboliques comme toujours. Enfin, moi je suis toujours surpris par exemple dans les règlements d'AVAP en CRPS de voir que bien sûr on s'intéresse aux panneaux solaires, etc. etc. Et à chaque fois par exemple, je dis ben, vous ne dites rien sur les collecteurs d'eau pluviale. Alors, ce n'est pas l'objet ici parce que c'est pas.
Mais
quand les jardins sont ouverts, du coup, on les voit apparaître.
On les voit apparaître.
Les architectes du bâtiment de France n'ont pas l'air d'être concernés par la question. Alors que quand on voit à chaque pignon de maison un collecteur d'eau avec une gouttière en PVC qui a été détournée, ben, je trouve que du point de vue de l'impact esthétique,
oui.
Ça, et bon, les gens achètent ça le samedi à 14h à Brico Dépôt et à 16h c'est posé dans le jardin. Enfin, voilà. Et visiblement, ce qui me surprend, c'est plutôt que l'architecte du bâtiment de France lui-même n'a pas l'air de s'intéresser à ça, alors qu'il fait une fixette sur 4 mètres carrés de panneaux solaires thermiques. Voilà, enfin, donc il y a aussi, j'ai l'impression, des espèces d'objets obsessionnels, mais je pense que ça marche des deux côtés.
Oui, et puis comme vous disiez, c'est aussi l'effet de mode, et alors il y a des demandes depuis quelques années importantes sur le dispositif panneau solaire.
Oui.
Donc là, pour le coup, nous, on essaye de se prononcer, on essaye de dire à nos habitants que le panneau solaire, finalement, il a quand même un impact, surtout sur une maison en rez-de-chaussée où la toiture est très présente dans le paysage. Bon, si le panneau solaire peut être installé quelque part ailleurs dans la parcelle, soit sur le jardin, soit sur l'autre versant de toiture, s'il est orienté au sud, etc.
Oui.
On essaye toujours trouver un compromis entre technicité, développement durable, parce qu'il faut aussi répondre à cette demande importante qui est celle du panneau solaire, du conteneur d'eau, etc.
Qui est favorisé en plus par la dernière loi.
Voilà, ben oui.
Alors,
c'est très courant, on en voit beaucoup. Alors, ce qui est intéressant dans ce paysage de ville de pierre, c'est les angles qui sont souvent plus bas que la rue. C'est quelque chose qu'on trouve à chaque angle de rue pratiquement. Donc il y a cette espèce de transition plus basse pour aller d'une rue à une autre, et ça permet, enfin, et ça ouvre comme ça sur soit l'îlot, soit sur des toitures mitoyennes. Et puis voilà, on peut apercevoir comme ça des petits éléments architecturaux assez singuliers. Là, c'est sans doute un puits de jour, tout simplement, pour avoir de la lumière sur l'ensemble.
D'accord.
Voilà, et donc, alors, nous, évidemment, cette construction d'angle, on la maintient, on la protège, et la surélévation ne serait pas forcément bienheureuse, puisque, on trouve que cet effet-là participe du paysage et doit être maintenu. En plus, il y a un joli découpage de cheminée, pourquoi pas conserver cet ensemble. Voilà, ça nous paraît. Et le pignon sur la rue qui joue de la singularité de cet angle, donc on conserve.
Et quand on se promène comme ça, rue par rue, maison, parcelle par parcelle, enfin, est-ce qu'il y a une certaine subjectivité parfois dans l'identification du coup de ce qui va faire patrimoine, ou est-ce qu'on peut dire que c'est assez scientifique et que bon voilà.
Il y a beaucoup de subjectivité. Certains vont être plus conservateurs que d'autres, donc nous parler plus d'évolution. Et aussi la ville, enfin nous aussi on a changé aussi en fonction des règles, en fonction des années, quoi.
Ouais.
La ville de Bordeaux.
Alors attention, nous on n'est que les petits artisans de ce travail de terrain, de cette connaissance de terrain. Après, ce travail-là va être partagé avec nos services, avec les urbanistes du secteur, et surtout va être validé par nos politiques. Hein.
Ouais,
le maire de quartier a aussi une vision. Alors une fois qu'on a passé tout un secteur, on va rencontrer les services bah, les espaces verts, les urbanistes. Enfin voilà, lorsqu'on protège un jardin, on demande à nos collègues des espaces verts s'il n'y avait pas un projet de raser tout un jardin. Enfin voilà, c'est des ensembles partagés. Et le politique, évidemment, va avoir le mot final. Hein. Donc nous, on est là, on a déjà une expertise qui est la nôtre.
De toute façon, quand on a des questions aussi, on a des parcelles qu'on arbitre, comme on appelle ça.
Oui.
C'est-à-dire, si on arbitre, c'est qu'on ne sait pas trop se positionner, nous, dans l'ensemble. Donc, du coup, on demande des avis, justement.
Voilà, et on va en général faire venir l'historien d'architecture qui travaille dans notre service, qui, lui, va faire plutôt un travail de recherche sur les éléments qui ont constitué ce secteur. Et lui, on va partager avec lui sur à maintenir, à protéger, ou alors à faire évoluer, à transformer. Et du coup, on ne protège pas. Et ça, c'est des choses qu'on partage, hein, évidemment. Et puis, on va aussi faire une réunion un peu publique auprès des habitants pour leur dire ce qui va se passer dans leur futur PLU.
Est-ce qu'on peut avancer
non,
juste
parce que là, la rue d'après,
on est
c'est super. Camions, ouais.
Non, mais c'est parce que c'est bien
où il y avait
extérieur devant la maison. Comment est-ce qu'on gère ce genre d'usage éphémère, mobile
Alors ça, c'est un usage qui a l'air d'être historique. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup de rideaux. Et vous regarderez, c'est surtout les constructions au sud. Et en fait, les gens mettent des rideaux pour protéger la peinture. Détériore moins rapidement par les effets du soleil. Mais on ne le gère pas.
C'est mobile,
ça, oui, oui, c'est éphémère, c'est des choses que l'on ne peut absolument pas imposer. Hein. C'est comme les rideaux. Chaque construction a son identité, qui est souvent celle de. Voilà, qui parle de l'habitant. Donc, c'est du même ordre que le choix des matériaux.
C'est extérieur.
C'est un usage qui ne porte pas atteinte au bâtiment, dans tous les cas.
Non.
Beaucoup moins que la faïence qui a été posée, qui doit être enlevée, mais voilà. Donc en même temps, le point d'équilibre que tu évoquais entre la connaissance qui permet d'élaborer des règles, et puis après, heureusement, l'usage quotidien du bâtiment. S'il n'y a pas une marge de manœuvre de chaque côté,
c'est très important. C'est très important pour que les habitants s'approprient ce patrimoine et ces règles patrimoniales. Il faut quand même qu'ils trouvent un juste équilibre, parce que si c'est trop contraignant, évidemment.
Par exemple, un beau rideau devant la porte en PVC.
Là, ça aurait été intéressant.
Ce serait intéressant, ça.
Ce serait intéressant. Je sais que l'été, Oui, voilà. Non, mais les gens souvent peuvent dantiner l'été aussi.
Moi, je pensais que tu allais dire ça, mais quand je me disais, ils ouvrent la porte pour ventiler. Mais le rideau permet de garder un peu
Et on a des différences certaines. Alors là, les volets ont été conservés, la porte ancienne maintenue, et puis le mitoyen, le voisin, lui, il a voulu au contraire se transformer. Par contre, il a remis son rideau traditionnel. Et d'ailleurs, on se demande si la porte a été changée à l'arrière.
Du coup, ça arrive à Anaïs, par exemple, de soulever le rideau pour passer.
Anaïs va tout le temps toucher les menuiseries, toucher la pierre pour voir si.
Oui.
Ouais. Bah oui, parce qu'elle décrit assez techniquement.
C'est là que la personne chargée donc de recueillir la connaissance doit aussi avoir des qualités de médiatrice et de communicante quand même.
Bien sûr,
il faut avoir un beau sourire et être capable d'engager la discussion.
Voilà,
facilement.
Exactement, savoir être constamment disponible à l'échange puisque effectivement l'habitant peut se sentir un peu pourquoi est-ce qu'on regarde ma maison dans le détail
parce qu'il y a quand même un rapport au droit de propriété en France qui est assez vif quoi. Enfin, donc la maison, la voiture
légitime.
c'est quelque chose
oui. Alors juste là pour un plan parce que c'est ça aussi la la ville de pierre, hein, c'est parce que souvent on nous dit oui, le patrimoine ça fige, etc. Non, pas du tout. Hein, des opérations très récentes peuvent tout à fait s'insérer dans ce paysage. Bon, là, le gabarit est plutôt en cohérence avec l'ensemble de l'îlot. Hein, on regarde vraiment l'échelle urbaine. Hein, on ne va pas regarder seulement ce qui se passe de part et d'autre de la parcelle. On va aller regarder une rue, une autre rue. Bon. Si on regarde le vis-à-vis, c'est plutôt très cohérent, le gabarit est en respect. La question des garages, que l'on voit juste après, voilà, on a cette petite série de garages. Ces garages de proximité sont indispensables dans la qualité de vie de ces quartiers. Les gens ont besoin de pouvoir stationner dans leur garage. On va se poser la question. C'est là où on va partager effectivement ce genre d'éléments, ce genre de questions.
Ah, tu l'avais pas vu venir celui-là. Hein.
Qu'est-ce qu'on fait de ces petites constructions? Alors, est-ce qu'on ne protège pas cet ensemble? Alors, si on n'en protège pas un, on n'en protège pas du tout.
Tu parles des garages, là, du
Je
coup.
Je parle de cette série de garages, ouais. Où on voit donc une construction récente à deux niveaux, une construction ancienne à deux étages, et au milieu d'eux, cette petite série de garages. Aujourd'hui, le politique nous demande de maintenir ces garages de proximité. Oui. Donc, on les maintient. Est-ce que l'on ne va pas donner, par contre, un filet de hauteur qui pourrait rejoindre le haut de la façade contemporaine et le haut de la façade ancienne? En plus, ça viendrait un peu améliorer cette vue sur le pignon et comme ça, donner de la densité et de la constructibilité en étage.
Donc là...
Alors à ce moment-là, on leur dit, pas protégé, hein, faites-nous... Alors vous conservez la série de garages en rez-de-chaussée.
Tout va très bien.
Comme l'immeuble est à moi.
Ah oui, non.
Tout va très bien, justement.
Au contraire, c'est un modèle qu'on nous montre.
C'est un... Vous inquiétez pas, madame. Tout va très bien, au contraire. Et voilà, donc est-ce qu'on conserverait pas cette série de stationnements en rez-de-chaussée pour y trouver des logements à l'étage et voilà, insérer dans la continuité de ce qui existe un élément contemporain. C'est assez rigolo de voir qu'en face, un propriétaire dans les années 80, voilà... où à l'époque, peut-être le patrimoine était un peu moins considéré. Bon, il y a eu des constructions qui ont été sacrément bouleversées. Et les années 80, c'est une époque où vraiment on a joué des formes architecturales. Donc là, il y a quelque chose d'assez singulier. Évidemment,
en saillie, là, en vert, c'est
ça ? En saillie, ouais. Où il y a un escalier visible depuis l'espace public. Bon, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est le dialogue avec l'espace libre juste après et l'arbre qui vient finalement un peu apporter un peu de douceur dans cette brutalité de façade. Quoi. Donc les deux ensemble fonctionnent et peuvent apporter une différence dans l'aspect minéral et de pierre de la rue. Donc on va là largement maintenir l'espace libre garder cette respiration.
Ça doit peut-être pas être... Enfin, je me dis que c'est peut-être pas si facile des fois d'être convaincu par votre argumentaire parce que parfois on entend qu'il faut garder un alignement de façade et justement cette homogénéité minérale même s'il y a des variations. Et puis parfois, en sens inverse, on dit « Ah, mais là c'est très bien parce que tout d'un coup il y a une respiration végétale dans l'alignement minéral. »
Oui.
Voilà, alors enfin, je dis ça en faisant un peu le niais de service, je le fais très bien.
Oui, 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 voilà. non, mais c'est-à-dire qu'il faut faire avec ce qui existe. C'est-à-dire que... La ville de pierre, c'est ça aussi, c'est des interstices de petits jardins sur rue qui accompagnaient une maison qui est parfois en retrait. Bon, on maintient cette forme urbaine qui est moins courante, mais qui est tout aussi intéressante dans ces grandes voies minérales et un peu austères que nous présente la pierre. Voilà.
D'accord. Ok.
Bon, là, c'est dans l'idée que la grande hauteur viendrait complètement bouleverser ce tissu.
Ouais.
C'est plus du tout aujourd'hui ce que l'on conforte dans ce, ouais, dans ce, bah, oui, ce paysage. Mais ça, bon, c'est évident.
Et donc, effectivement, c'est, donc là, les filets de hauteur restent vraiment ceux du bâti existant,
oui,
malgré les objectifs de densification majeure. Enfin, bon, après, on voit qu'il y a de la réserve. Enfin,
il y a de la réserve.
On était au bassin à flot hier pour interviewer Corinne Langlois. Donc,
oui,
bon, quand on voit tout ce qui sort de terre au bassin à flot, là, c'est, en termes de quantité de logements, ça a l'air...
Oui,
mais
justement, énorme. C'est aussi complètement d'actualité dans cette ville de pierre, parce que là, on se dit comment on va pouvoir densifier si on empêche la surélévation, comment ces échoppes. Mais sauf qu'on n'a pas idée de ce qui se passe en cœur d'îlot. Mais je vais vous montrer ce qui se passe en cœur d'îlot.
D'accord.
Et parfois, c'est là qu'on peut trouver du droit possible à construire pour des choses ouais, plus importantes.
Parce que voilà. Enfin, je me dis, en même temps, il y a du potentiel de construction sur de grands espaces comme le bassin de l'eau, puis en même temps, ça contribue finalement à une espèce de ségrégation de l'espace, où voilà, en gros, l'habitat collectif,
on le mettrait
dans ces nouveaux quartiers,
et
alors que l'intérêt, c'est aussi de densifier dans des zones d'habitat comme celle-ci. Voilà.
Eh bien ouais, c'est ça aussi ce que l'on fait. C'est-à-dire que nous, quand on va trouver un ancien garage, une activité garage, par exemple, sur un îlot,
ouais,
et puis il va avoir toute une série d'entrepôts en cœur d'îlot. Là, on pointe à notre politique, à nos services de la collectivité, qu'il y a une mutation possible, puisque ce garage, voilà, il est contraint aujourd'hui par le stationnement, etc. Il souhaiterait pouvoir déménager, aller plus loin. On a pointé que là, il y a un espace mutable. Important, puisqu'il a toute une série de bâtiments, donc on va trouver
ouais,
là une opération possible.
D'accord. Et vous avez un peu des ratios, enfin des pourcentages, hein,
c'est toujours pas cette rue. Je suis désolée, c'est toujours ça me suicide, excusez-moi, c'est une impasse. Là est la question, l'aspect esthétique des constructions, le goût et la couleur. Voilà,
ça ne se discute pas.
Ça ne se dit
l'adage.
C'est difficile de dire aux personnes non, vous ne pouvez pas retravailler toute votre construction et votre façade d'un parement en bois qui vient complètement en rupture avec le paysage de pierre. Ouais. Mais voilà, alors là, ça a été fait il y a bien longtemps. Le bois, on voit bien qu'il a un temps de vie assez réduit lorsque l'on entretient peu ça. Mmh. Voilà.
Alors justement, comment au travers du PLU, vous gérez aussi des demandes qui peut-être sont moins fréquentes ici sur un bâti plus ancien, d'isolation thermique, entre autres par l'extérieur, ou voire régulièrement donc des bardages bois ou des bardages PVC aussi demandés par les habitants. Alors d'abord, c'est peut-être pas un bâti qui nécessite beaucoup de travaux en termes d'isolation thermique en dehors des
huissiers. La pierre est naturellement assez performante, et puis ces maisons toutes mitoyennes les unes accolées aux autres participent de cette
mais vous avez des demandes malgré tout, donc
on a quand même des demandes oui, et ça c'est nos services, nos architectes conseils qui donnent des avis favorables ou pas aux demandes des Bordelais, et qui vont au moment de l'échange avec le propriétaire expliquer pourquoi le bardage bois va au contraire venir étouffer la pierre, va venir finalement la détériorer beaucoup plus rapidement, puisque la pierre bordelaise est très poreuse, elle a beaucoup besoin d'être ventilée.
D'accord.
Et le parement extérieur va venir dégrader à l'intérieur de façon importante. Donc c'est toujours ce dialogue qu'il faut maintenir avec le propriétaire pour essayer d'accompagner, mais parfois on ne peut pas interdire.
Cela étant, là, il y a aussi
un avis
à nouveau, c'est aussi un exemple de réponse technique aussi à enfin, une question juridique, c'est-à-dire voilà, je peux ou pas faire un bardage bois réglementairement. Et en fait, là, vous apportez une réponse technique et bah, le bardage bois n'est pas adapté.
Voilà, de la même manière que de peindre les soubassements, parce que les gens pensent que la pierre de soubassement est plus fragile et donc parce qu'elle reçoit l'eau, elle est vite dégradable. Bah, au contraire, on leur dit que de recouvrir cette pierre, ça va étouffer et qu'elle va vite s'abîmer.
D'accord.
À la recherche de droits à construire et d'opérations contemporaines. Bah là, c'est le cas de figure typique. On avait un entrepôt, donc une ancienne activité. C'est pour ça que ça permet de trouver de larges ouvertures qui laissaient passer ces véhicules de transport. Et puis, à l'arrière, on trouve souvent de grands entrepôts assez profonds. Bien, c'est des constructions qui peuvent tout à fait être adaptées au logement et qui peuvent être complètement conservées dans leur gabarit, dans leur forme. Et à l'intérieur de cette construction, on va pouvoir y trouver une nouvelle façon de vivre. Alors là, ça a l'air assez réduit. Hein. Il y a l'air d'avoir 3-4 habitations, mais voilà, ça vient tout à fait redonner vie au bâtiment d'origine. On est quand même très très proche du centre ancien, cœur historique, donc on est en plein cœur de Bordeaux. Hein. Ouais.
Mais c'est peut-être plus facile sur des bâtiments professionnels que sur l'habitation. Enfin,
cette évolution. Cette transformation, oui, parfois. Ouais. Parfois, mais vous allez voir, on a tout un éventail de possibles, hein, même avec les constructions d'habitation. Alors, aujourd'hui, Bordeaux a le vent en poupe. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui arrive d'ailleurs. Et puis, parfois, on va avoir des habitants qui vont acheter, alors parce que c'est des prix abordables, vont acheter ce petit élément échoppe simple, très modeste, très petit, il y a à peine 50 mètres carrés au sol. Et là, le travail du notaire est indispensable parce que le notaire, souvent, il n'est pas informé de cette réglementation. Il faut aussi dire, parce que les propriétaires, c'est par exemple un jeune couple avec enfants, donc ils vont réussir à vivre dans ce produit-là.
Oui.
Mais à un moment, là, il va y en avoir deux, puis trois enfants, et puis les enfants restent plus longtemps auprès des parents aujourd'hui, avec la conjoncture économique qui est. Et donc, ils ont 50 mètres carrés et ils veulent 150. Alors on leur dit, dans une bouteille d'un litre, il est difficile de faire rentrer 3 litres. Voilà, il y a aussi un travail en amont d'expliquer par le biais de la vente, etc., d'expliquer qu'une échoppe simple de cette taille-là est protégée, conservée et maintenue dans cette taille-là. Mmh.
La vente, de toute façon, nécessite un certificat d'urbanisme.
Et c'est à ce moment-là.
Mais il y a plus que les informations de base du certificat d'urbanisme, où en gros il y a le zonage de la parcelle, les servitudes d'utilité publique. Mais là on n'est pas sur une servitude d'utilité publique,
non.
C'est une servitude d'urbanisme.
Voilà.
Donc comment vous arrivez à faire passer par exemple au notaire des informations
C'est-à-dire que la ville de Bordeaux communique beaucoup sur ce PLU patrimonial. Maintenant on en connaît les bienfaits parce que voilà, le tourisme, tout augmente sur Bordeaux. Donc il y a aussi à l'acquéreur de s'informer de l'évolution de sa parcelle. C'est très important aussi que les gens soient avertis qu'on est dans des secteurs qui ne sont pas modifiables à tout va. Quoi.
Là, tu parles des notaires, mais vous travaillez aussi avec les agents immobiliers.
Alors, on les rencontre parfois lors de grandes... Par exemple, voilà, on fait des journées d'études sur des secteurs. Alors, plus des secteurs comme les bassins à flots, Euro-Atlantique, c'est des secteurs en grande évolution. Et là, on peut parfois les rencontrer. Mais ils interviennent aussi dans des secteurs très constitués que sont la ville de Pierre. Et là, il faut les informer, il faut échanger avec eux beaucoup. Mais bon, depuis une dizaine d'années, quand même, la ville essaye de faire ce travail d'information lors des concertations, etc. C'est des moments d'échange importants et eux s'emparent de ces questions-là. C'est aléatoire, mais on essaye d'élargir au maximum auprès des professionnels. Et notamment une toiture prolongée là, comme ça c'est assez visible. Bon alors les changements de menuiserie,
Oui c'est sûr.
Mais c'est vrai que ça fait 8 ans nous avec Anaïs qu'on est sur le terrain, qu'on fait ce travail d'enquête et d'inventaire. Et on voit tellement de façon importante des portes modifiées, des fenêtres modifiées, des toitures modifiées, que ça nous permet aussi de nous réguler nous-mêmes. C'est-à-dire que parfois on dit, bon, d'accord, la menuiserie a été changée, mais finalement, bon, oui. Ça ne vient pas complètement perturber l'ensemble. Voilà, alors là, on trouvait intéressant de vous montrer cette séquence d'échoppes. Si par exemple la numéro 25,
c'est notre dernière étape là, je crois.
Oui.
Ça sert à rien, ça va être moche plus au niveau du son.
D'accord. Okay. Je me permettais juste de vérifier auprès de
D'accord. Okay. Donc, comme tout à l'heure, là, on retrouve une évolution possible. Donc, cette construction qui a eu reçu un projet très contemporain. Elle est prolongée par un ancien entrepôt. Bon, mais il y a des tas de façons d'habiter ces lieux-là qui sont intéressantes. Si par exemple, je vous donne un exemple, cette maison ici, cette échoppe n'avait pas été protégée parce qu'on dit qu'elle a été trop bouleversée. C'est un exemple. Elle aurait eu ses volets roulants de façon abîmant la façade, si la peinture était venue massacrer la pierre, si la toiture était vraiment trop modifiée, on aurait pu dire qu'elle n'était pas protégée. Ça donnait la possibilité à un futur acquéreur ou au propriétaire actuel de la mettre à terre, mais il aurait fallu conserver cette séquence. Par contre, dans son gabarit, rester respectueux du rythme des ouvertures. Et donc, on aurait pu avoir un petit élément contemporain ici, tout en gardant une ligne d'égout, une ligne de soubassement que l'on voit dans toute la séquence filet droit et un rythme d'ouverture. Là, ici... Vous voyez un exemple d'échoppe simple qui a été prolongée et qui a gagné un étage sur le jardin. Donc, la dame qui sort de sa petite échoppe, elle a, à l'arrière, sans doute trouvé des mètres carrés possibles pour agrandir son espace. Ce petit élément-là, qui est une trace ancienne d'une activité de quartier. Alors ça, on l'a protégé, vous voyez. On trouve que ça fait singularité dans le paysage. C'est un petit élément qui participe de l'histoire, qui raconte ce qu'était autrefois cette rue. Et... elle va comme ça, en plus, aller distribuer un cœur d'îlot.
Oui.
Le cœur d'îlot, aujourd'hui, c'est toujours un entrepôt ou pas. Ça peut évoluer.
Ouais.
On verra, on peut regarder ce qui peut avoir une vue de l'intérieur.
Alors, donc là, c'est tout ce travail vraiment d'identification très très fin que vous faites, vraiment, on voit bien.
Hein, oui, un travail.
Et comment se fait après le passage de relais pour l'écriture? Donc c'est protégé, mais après, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit.
On va devoir motiver notre protection.
Parce que protégé, ça peut être très très précis là aussi, ou alors on va là, beaucoup de PLU pose simplement l'obligation de garder, de faire des travaux qui s'intégreraient de manière harmonieuse dans l'ensemble ou sur l'élément qui est protégé. Voilà, alors, mais parfois c'est beaucoup plus précis que ça. Donc voilà, comme je sais que votre service, Anne-Laure Moniaud l'a rappelé hier, participe aussi à l'écriture réglementaire du PLU.
Tout à fait.
Voilà, donc, comment se fait ce passage là entre la connaissance et la mise en règle?
Voilà, quand on va rentrer dans nos bureaux pour aller intégrer tous les éléments vus sur le terrain et nos premières propositions de protection ou pas de déconstruction, il va falloir, lorsqu'on protège une construction, argumenter cette protection. Il la faut, puisqu'il faut pouvoir donner au pétitionnaire une raison valable qui est celle de l'homogénéisation, de la continuité des fronts bâtis. Bon, après, il y a tout un ensemble. Alors, on peut aller dans la précision, mais on peut aussi rester très général. Ça peut être tout simplement maintenir une continuité urbaine d'un front bâti. Ça peut être protéger une singularité parce qu'il y a un jardin qui vient créer une respiration. Ça peut être une petite voie privée qui est maintenue parce qu'elle va permettre de distribuer le cœur d'îlot. Tout ça, il faut qu'on l'argumente, évidemment.
D'accord.
Et c'est ce qui va créer des fiches. Oui. Et ces fiches vont pouvoir être sorties par le service d'instruction. L'architecte conseille de la ville. Et ils vont avoir comme ça les éléments argumentant la protection ou pas de la construction.
D'accord. Et là, vous travaillez avec des juristes à ce moment-là quand même?
Alors, on a un service juridique. Voilà. On a un service juridique avec qui, là, il y a, pour l'année prochaine, c'est même sûr, le règlement, la révision du PLU 3.1, ça nous a permis, en ayant cette douzaine d'années d'expérimentation du PLU patrimonial, d'affiner un peu nos propos. Et notamment sur la pleine terre ou pas, lorsque l'on met des emprises zéro, il y avait aussi des alors pas le particulier mais très souvent le constructeur, le promoteur qui faisait dans ces zones vertes, ces zones 0%, des parkings. Nous aujourd'hui on a pu aussi travailler la pleine terre, là où on peut construire, là où on peut revêtir le sol ou pas, sur des matériaux, des épaisseurs.
Et justement, alors sur les matériaux, est-ce que des fois votre service juridique vous dit ah oui, mais attendez, non, là vous voudriez.
Oui, on a voulu interdire.
Imposer tel matériau.
Voilà, on a voulu interdire. On a voulu alors, être assez rigide sur le PVC. On ne peut pas interdire complètement des matériaux. Non, on peut. Ce n'est que c'est de l'aspect de la sensibilisation, mais on ne peut pas imposer.
Et du coup, ça ne donne pas des idées d'extension du secteur sauvegardé ou de mise en place d'un outil type AVAP, bien sûr. Enfin, est-ce que ça fait partie aussi des discussions que vous avez? Ou est-ce que finalement le PLU patrimonial de la ville de Pierre...
C'est-à-dire que sur le secteur sauvegardé, finalement, lorsque l'on arrive lorsque le périmètre vient toucher le périmètre du PLU patrimonial, on est conforté par le fait que y a une forte protection sur le secteur sauvegardé, mais finalement, on va échanger avec le service qui travaille sur ce secteur sauvegardé pour être cohérent. C'est-à-dire que nous, à l'arrière, le bâtiment sur la rue arrière, par exemple, si le secteur sauvegardé le trouve très patrimonial, qu'il faut absolument comme un élément de grand intérêt, il faut que ça soit en résonance et en cohérence avec ce que nous, on va prescrire sur notre partie PLU. Puisqu'on sait que ces périmètres viennent découper les îlots plein centre.
Et une dernière question peut-être, là en fait...
Là voilà, c'était intéressant voilà, de voir la rupture des échelles.
Ça veut dire qu'avant on avait le même type de maison de ce côté-là.
Exactement.
Et qu'il y a eu une opération où tout a été rasé il y a...
Exactement.
Je ne sais pas combien de temps.
Exactement. À 80, 90 même.
D'accord.
Oui, oui, c'est... Voilà, alors là, totale rupture, plus d'alignement, le retrait pour pouvoir monter. Et ça vient quand même complètement violenter la rue, le paysage, les habitants aussi qui se sentent bouleversés quand même par ces constructions venant déstructurer un tissu entier. Aujourd'hui, le PLU à la parcelle va empêcher ce type de construction. Par contre, si toutes nos échoppes là n'avaient pas été protégées, imaginez, aucune d'entre elles, donc ça en fait pratiquement une dizaine. Un promoteur peut année après année racheter chacune. S'il vient faire une opération récente, eh bien nous on a quand même avec ce règlement une hauteur imposée.
Oui. De toute façon, c'est pas rentable pour lui.
Voilà. Alors, c'est pas rentable ou ça commence à l'être. C'est-à-dire que le promoteur, bon, bah, maintenant qu'il sait qu'il est très contraint dans la ville de Pierre, va le faire avec les contraintes, mais ça a une valeur tellement importante. On peut trouver, il va mieux vendre son produit parce qu'en cœur de ville, parce qu'intégré dans la ville ancienne.
D'accord. Mathieu, tu avais une question?
Je suis partie un peu dans...
Oui, c'est ça, non,
je suis partie dans tous les sens.
Bah non,
mais c'est ça voilà, qui est bien. Après, je voulais juste vous montrer, mais c'est plus pour des images. Il y a des cœurs d'îlots intéressants de voir comment, en maintenant ces cœurs d'îlots, on maintient aussi une habitabilité. Habitabilité de grande qualité. Merci.
Ouais, non, mais t'as parlé pendant 2 heures.
Voilà, mais là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout à fait possible que voilà, à terme, bon là aujourd'hui c'est le Conseil Général, mais à terme, est-ce que ce ne serait pas transformé en équipement de quartier ou est-ce que ce ne pas transformé en logement? On peut imaginer type loft, hein, dans ce type de produit de grande...
C'est assez haut et ça part sur les côtés.
Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On protège la première ligne de construction, on maintient les jardins sur l'arrière tout en leur donnant une évolution possible, une certaine épaisseur pour faire évoluer les chopes qui est quand même très contrainte dans son gabarit. Et puis, avec mon outil performant et ma photo aérienne, je vais repérer cet entrepôt. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même pas y mettre de l'inconstructibilité. Il y a quelque chose aujourd'hui qui existe, il y a une emprise au sol qui existe et qui viendra sans doute moins perturber avec une opération récente les riverains que quelque chose qui est là. Donc, nous allons dire que cet entrepôt sera maintenu et transformable.
Oui, oui.
Ça, c'est plein de petits trucs comme ça.
Oui, oui.
L'évolution de cette ville de Pierre.
Oui, oui, oui. Il y a quand même des besoins de logement. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour ne pas reporter tout le potentiel.
Tout le potentiel.
Le besoin de logement
sur des
grandes opérations de rénovation urbaine.
Mais non, mais parce que vous croyez que les Parisiens qui vont venir, parce qu'ils seront à 2 heures de Paris, ils vont vouloir, ils veulent retrouver...
Ah non.
Aussi, il y en aura évidemment une vague importante, mais il y aura aussi ces Parisiens qui recherchent ce petit élément en pierre avec son petit jardin, chose qui a totalement disparu.
Enfin, ça doit quand même du coup faire une sacrée... Quand je parlais de ségrégation de l'espace, ça doit quand même... Parce que le prix du bel appart au bassin flot, j'imagine que ce n'est pas le prix même d'un petit appart en plein cœur d'îlot.
Oui,
j'allais poser la question justement depuis que le PLU patrimonial existe, enfin, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'il est expérimenté, est-ce que vous avez des données ou est-ce que vous avez observé qu'il y a des quartiers qui ont pris de la valeur, où il y a un changement de composition sociale, ça se gentrifie?
De façon plus importante dans les quartiers sud de Bordeaux, effectivement, avec tout le travail que mène une cité de revaloriser ces petits immeubles collectifs en pierre, tous ces secteurs d'échoppes et de maisons ont gagné en plus-value de façon très importante. Oui, oui, il y a une gentrification, c'est certain. Mais en même temps, c'est très contraignant aussi d'habiter là. On ne leur donne pas toutes les possibilités d'extension que par rapport à des quartiers plus en périphérie où les jardins sont plus importants. Et donc voilà, ils ne peuvent pas forcément, lorsqu'on acquiert une maison, on ne peut pas faire rentrer sa voiture. Des fois, les gens veulent pouvoir faire rentrer la voiture sur la parcelle. Enfin, c'est un autre... Là, pour se garer, c'est un peu plus contraignant tous les jours. Si on utilise la voiture tous les jours.
Oui, c'est sûr. Ouais. Se garer dans Bordeaux, c'est,
ben oui,
c'est un challenge. Hein.
Et ça va être de pire en pire.
Ouais.
Bon. Aider à nos planches PLU de patrimonial où on voit les endroits où ça peut être très bouleversé parce que des cœurs d'îlots avec des entrepôts, voilà, tout ça n'est plus protégé. Ça donne des grandes emprises possibles pour des opérations de même envergure. Hein.
J'ai vu, hein, tout est accessible sur le site internet. Voilà. Non mais ça, toutes les collectivités. Bon, c'est vrai que Bordeaux, c'est pas non plus n'importe quelle collectivité. Et toutes les collectivités. Car récemment, on n'avait pas en ligne tous leurs documents d'urbanisme et entre autres toutes les planches avec le marquage graphique, les éléments protégés. Enfin, et quand on parle d'appropriation, il y a celle du patrimoine, mais après il y a celle de la règle. C'est-à-dire que quand on ne peut pas accéder facilement, que ce soit un constructeur privé ou un simple habitant, on ne peut pas accéder facilement
à la règle.
À la règle, bon, il faut la comprendre, mais même déjà y accéder matériellement, c'est... C'est pas la même chose que d'être obligé de faire une démarche à la mairie. Enfin,
Oui, non, mais ils ont accès. Alors, c'est pas encore très facile, hein, mais parfois on les a en téléphone, puis en direct on va leur
raconter.
Mais ils ont accès à toute l'information.
Important. Non, mais c'est pas parce qu'on a accès effectivement au règlement et à la planche graphique qu'on comprend comment ça fonctionne. Mais enfin, déjà,
on a le service de pré-instruction qui est présent à la ville et ça permet, bien avant de déposer un permis, ça permet aux propriétaires, aux porteurs de projets de venir déjà s'informer sur ce qui est possible ou pas.
Et la ville donc a des architectes conseils.
Alors il y a 3 architectes conseils et un service de pré-instruction qui est quand même très important. D'accord. Qui est à l'accueil, qui est au rez-de-chaussée et qui répond comme ça à la demande, on prend rendez-vous, on l'appelle et de façon assez disponible
pour préparer son dossier,
pour lui dire c'est même pas la peine de faire un projet là-dessus, ce sera pas possible. Il y a des choses qui vont être données dès le début et puis après il y a un doux travail avec l'architecte lorsqu'il y a un aspect architectural important et puis les services urbains. Donc là, un exemple de garage surélevé. Bon, c'est pareil, hein, on ne parle pas d'architecture, hein, on parle d'insertion. Donc nous, aujourd'hui, on aurait plutôt poussé le porteur de projet à venir monter jusqu'au petit pignon, parce que ça aurait comme ça redonné de l'ordre à ce petit désordre de l'histoire. Voilà, c'est...
Pas sur une, il y a des aberrations. Parce qu'on cherche à identifier la ville. Et 2 mois après, non, c'est plus possible.
Le zonage de Bordeaux reverse année après année des secteurs qui
cette notion-là de secteur protégé, elle est hyper subjective. C'est le service de l'urbanisme qui décide.
Je vous rassure, monsieur, il y a quand même le maire de Bordeaux qui, à la fin, va donner son dernier mot.
Vous savez, j'ai travaillé dans les services des collectivités, je sais ce que c'est. Bon, les services qui décident.
C'est quand même... Et les politiques.
Oui, mais les politiques, en général, ils adoptent ce que les services ont proposé.
Oui, mais on partage avec eux. C'est vraiment leur demande. Nous, on ne va pas donner des règles si le politique ne nous suit pas derrière. Le politique nous a dit qu'il faut avoir un regard important sur la ville de Pierre et tous ces quartiers résidentiels en pierre que font la ville de Bordeaux. On nous demande d'avoir une contrainte patrimoniale assez forte.
C'est la densité de la ville, quand même.
Alors,
c'est ce que... Vous savez, les shops, c'est une chambre.
un séjour.
Exactement.
Toilette.
Et... Ouais, ouais, je
vous voulez fonder une famille.
C'est très modeste.
Ouais, non, mais c'est exactement ce que
la famille achète justement. Une maison. On n'achète pas une échoppe parce que
vous avez vu le prix. Vous avez vu le prix des maisons ici.
Mais oui, mais. Mais écoutez, le prix de notre histoire est tout aussi important, monsieur. Je comprends bien qu'il y a l'aspect économique.
Vous savez, mais on fera une belle échoppe avec un aspect un petit peu écologique, maison positive au niveau énergétique et tout. Et vous pensez que sur le plan justement de l'intérêt général, c'est pas mieux que de l'aspect patrimonial? Alors, sans enfreindre justement une harmonie patrimoniale, parce qu'il ne s'agit pas de...
Un ensemble de maisons ou d'échoppes qui vont toutes être surélevées, allez voir la rue du Tondu, moi je ne suis pas satisfaite du paysage de la rue du Tondu, toutes les maisons ont été surélevées, un coup c'est du bois, un coup c'est du zinc, un coup c'est de la pierre qui se détache.
C'est pas trop grave, vous avez une vision d'urbaniste et vous
habitez ici. Un maire de quartier qui m'a demandé...
J'habite juste un peu plus loin, mais mon fils est dans la rue Lecoq.
Oui, oui.
Alors la rue Lecoq est hyper longue. Ouais. Et alors maintenant, après, ils vont mettre des séquences urbaines. C'est un peu aberrant, quoi. Il y a complètement... C'est arbitraire, le système des séquences urbaines. C'est complètement arbitraire. C'est ça qui me choque. Et j'ai même écrit, au moment de l'enquête du PLU, le dernier jour, parce que j'ai appris qu'il y avait une enquête, mais je n'ai pas de réponse, je ne sais pas si j'en aurai un jour de cette enquête. Mais je ne comprends pas le système de séquence urbaine tel que vous l'avez conçu, parce qu'il n'est pas, juridiquement.
Vous savez que ce qu'il vous racontait, ça nous intéresse beaucoup. Ça vous gêne si on vous filme?
Alors, je vais raconter.
Voilà. Non, c'est parce que comme nous, on fait un documentaire sur justement la règle d'urbanisme entre patrimoine et projet urbain, etc., etc. Donc en fait, ce qui est
non, mais
la parole de l'habitant, on ne l'a jamais. Donc c'est très intéressant.
Vous l'avez entendu.
Ah, oui. Nous, on l'entend tous les jours, cette parole-là. Mais bon, on entend aussi des gens très contents. Leïla Campagne du Parc. Mais des gens très contents. On a le double
discours. Je lui fais
ça. Ah, attends, parce que là, il reste une minute de batterie à péter.
Surélevé à tout bas. Parce qu'aujourd'hui, les matériaux ne sont pas aussi performants que ce que savait faire le 19e. Et puis que ces paysages peuvent être très rapidement dégradés.
Je suis convaincu que...
Allez voir la rue du Tondu, vous allez voir de quoi je parle, monsieur.
Mais allez voir la rue Lecoq.
Oui, je la connais bien, la rue Lecoq, on y est passé.
Je peux vous dire que dans la rue Lecoq, moi j'ai vu les choses, justement, dans les rues voisines, les surélévations qui viennent de se faire, dont je ne comprends pas, par rapport à votre argumentation, comment elles auraient pu être autorisées et que maintenant elles ne pourraient plus l'être.
Elles ont été autorisées parce que c'était des secteurs qui n'avaient pas été inventoriés.
Moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait un vrai débat citoyen sur ces questions-là. Il n'y a pas eu de débat citoyen.
Il y en a beaucoup.
L'enquête urbaine, l'enquête
mais
publique.
Votre carte, je vais vous informer de toutes les rencontres.
Mais je n'ai pas de carte, moi, je suis un citoyen banal.
Moi non plus, voilà. Et je suis aussi un citoyen banal.
Bon, je m'appelle Gérard Contrepoix, j'habite dans le quartier.
Mais
j'ai un fils qui veut fonder une famille qui est... Il travaille dans Bordeaux, il essaie de rester dans Bordeaux. Le prix des mètres carrés a évolué fortement. Et il essaie effectivement de trouver une solution optimale. Et là, moi, je ne comprends pas cette problématique de séquence urbaine qui n'a pas de définition juridique claire. Et ça va poser un problème constitutionnel, je peux dire même. Parce que franchement, d'un autre côté, j'ai entendu des discours où il fallait densifier la ville, arrêter de l'étalement urbain. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Des choses qui paraissent un petit peu trop pointues sur le plan urbanistique, un peu trop limitées par rapport à une conception.
Vous parlez de problématiques générales, justement, il faut trouver un équilibre entre
Je ne sais pas, il n'y a pas d'extrémité. Enfin, justement, dans une rue où justement, qui se vide peut-être un peu.
De quelle rue vous parlez?
Je parle toujours de la rue. Pas assez, justement. Je trouve qu'il y a probablement.
Je pense que les riverains, quand ils ont vu venir cette opération, ils ne devaient pas être très heureux, je pense.
En tous les cas, c'est là, vous n'allez pas le détruire. Bon, donc après,
Par contre, on ne va pas le protéger. Hein. S'ils veulent le mettre à terre un jour pour retrouver des petites maisons de vie, on sera
Je pense que vous ne comprenez pas l'intérêt général.
Ça fait 10 ans que je travaille.
Non, mais vous êtes dans l'esthétique. Vous êtes surtout dans l'esthétique, je peux comprendre. Mais il y a quand même une limite entre l'esthétique, l'intérêt général, de construire quelque chose d'harmonieux, parce qu'il ne s'agit pas effectivement de faire n'importe quoi. Quelquefois, on trouve dans la ville, effectivement, des choses qui sont assez horribles. L'idée de l'architecte, c'était justement de faire des propositions et d'échanger avec les services de la ville pour qu'on aime. C'est vrai, une façade dont on recherchait justement l'harmonie avec le reste. Ça n'a pas été possible.
Pour votre carrière, mais sinon, régulièrement, tous les jours au quotidien, c'est notre travail aussi.
Pour moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu sur le fait qu'il y a un peu trop d'arbitraire dans la démarche.
Oui. Voilà. Mais on l'entend beaucoup, ça.
Ben oui. Mais oui, vous l'entendez, mais vous ne l'écoutez pas.
On fait remonter les questions, mais voilà, c'est la politique aujourd'hui souhaitée.
Vous savez, entre un discours d'un architecte et celui, enfin l'architecte, à qui on confie un projet conseil, oui. Et celui de la mairie, je ne sais pas, il y a un décalage.
Oui.
Quelquefois, justement, quand on a discuté, on dit, mais la maison voisine, c'est fait. Oui, mais c'est pas moi, c'est un collègue. Là, vous savez,
ça c'est vraiment une discussion que l'on a constamment. Les services d'urbanisme de la ville de Talence nous regardent parce qu'ils sont intéressés par notre travail, donc on agit avec eux. Mais eux, ils ne veulent pas interdire la surélévation sur rue. Ça, c'est, c'est pour eux. C'est,
non, mais je comprends, un quartier hyper centre. Mais rue Lecoq, près du stade, là-bas, enfin, pour moi, il y a quelque chose qui me choque. Ça me choque. Parce que je peux comprendre dans le secteur vraiment UNESCO, là, bon, il faut conserver quelque chose de, bon, d'assez harmonieux, d'assez historique. Mais là-bas, c'est près du stade.
C'est un peu trop loin.
Bah ouais, franchement. Non, mais là, non.
Le joyau bordelais.
On regarde le même ensemble. On a regardé de Bacalan à Belsier et à la Bastille de la même manière.
Non, justement, je pense que c'est là où vous avez tort. Je crois qu'il y a vraiment un problème là. Non.
C'est aussi tout le problème.
Plus, qu'est-ce qui va se passer au stade? Le stade a été transféré au grand stade. Donc il va y avoir un projet.
Oui, bien sûr.
Et puis à côté, on ne peut pas surélever.
Mais vous venez aux concertations du secteur du stade de l'Escure? Parce que là, c'est des moments d'échange.
Je vais essayer de venir, mais quand on travaille, ce n'est pas évident. Hein.
C'est le soir, monsieur. On essaye de s'adapter aux horaires. D'ailleurs, parce qu'on veut les rencontrer, les Bordeaux.
Moi, j'aimerais bien, effectivement, être en permanence en concertation. Mais... Faut pouvoir le faire. Hein.
Et ben après, c'est le problème des périmètres. Enfin, ce que vous viviez, c'est le problème du périmètre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous avez l'air bien informé sur le sujet.
Oui.
Il y a un moment où il y a un coup de crayon qui arrête un périmètre. Oui. Il faut bien, je veux dire, parce que.
Oui. Et puis on voit le mitoyen.
Ça
ne
peut pas
élever,
être un infini. Voilà, et c'est vrai que du coup, ça crée toujours un petit sentiment d'inégalité devant la loi. Parce que de ce côté-là, on ne peut pas faire, et puis de ce côté-là, on peut. Et pourtant, il a bien fallu un moment que le coup de crayon passe quelque part. Voilà, donc c'est. Et ça, c'est ce sentiment un peu.
Oui.
Qui n'a rien d'arbitraire. Hein, parce que,
si, un coup de crayon, c'est arbitraire.
Non, jamais. Non, mais moi.
Si.
Oui, bah, ça dépend desquels, mais.
On n'est pas tout seul dans
une condamnation à mort dans une dictature, c'est arbitraire.
J'ai travaillé dans les services de collectivité. On faisait. Je savais qu'on faisait un dossier, à part des orientations hyper politiques profondes, mais autrement, le dossier il passe, c'est tout. Et c'est les services qui ont décidé, c'est tout. J'ai travaillé dans les services, je sais ce que c'est.
Oui, oui.
Et les politiques passent et les services restent. Bon, en général, c'est fait pour ça, un service. Hein. C'est que, bon, en général, quelle que soit la politique, il y a une vision. Mais là, moi, je pense que justement, sur le plan de la vision, c'est discutable, voire contestable. Et je ne sais pas comment on peut contester ce genre de choses. Vous pouvez me donner un conseil? Parce que justement, moi, j'aimerais contester. Alors, si c'est, parce qu'un PLU, ça a été défini, mais dans un cadre de règles d'urbanisme. Et là, je pense qu'on est sur quelque chose, justement, sur une frontière qui n'est pas nette du tout par rapport aux règles d'urbanisme. Et donc, comment faire? Il faut saisir le Conseil constitutionnel? Pas le choix? Non, mais c'est ça qui est terrible, quoi.
Alors, en échange de votre signature, je vais vous donner des conseils juridiques parce que je suis prof de droit.
D'accord.
La contestation, c'est un mot intéressant. Parce que, bon, en général, ça veut dire qu'on est déjà dans une logique un peu contentieuse. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est quand même d'être dans une logique plutôt de médiation en amont.
Vous savez, on a saisi le médiateur.
Ouais.
Et le médiateur, il est écrit au service. Et on a la même réponse du service au médiateur que celle. Donc il n'y a pas eu d'échange.
Mais quand je parlais de médiation, c'est pas forcément la personne d'un médiateur.
Non.
C'est que les services au quotidien, je parle beaucoup pour eux. Enfin, moi je suis pas de Bordeaux,
je suis d'Angers.
Mais font de la médiation, c'est-à-dire déjà de l'explication du pourquoi. C'est-à-dire que c'est voilà, pour dire que ça n'a rien d'arbitraire et qu'il y a des raisons. Qui n'exclut pas, je suis d'accord avec vous aussi. Une petite dose de subjectivité parce que la question de l'esthétique, de ce qui fait patrimoine sur un alignement de façade, Voilà,
c'est très subjectif.
Oui, je ne sais pas si c'est très subjectif, mais ça peut
être. Pour l'habitant, ça l'est. Voilà, il le vit comme ça, on entend.
Bon, puis après, si votre fils avait un refus de permis de construire, il ne rappelle pas dans le conseil qu'il connaît tout de suite, mais il saisira le tribunal administratif de Bordeaux pour commencer. Oui. Et voilà, c'est gratuit, c'est un recours pour excès de pouvoir. Vous connaissez la musique, vous n'avez même pas besoin de prendre un avocat.
Donc, je connais aussi le fait que la justice est sous influence. Ça, je le connais. Ça, je le reconnais.
Honnêtement, pas sur des dossiers comme ça.
Vous savez,
pas sur un petit dossier local, chez la cité municipale.
Non, mais j'ai un. Moi, j'ai ma maison. J'ai un voisin qui a fait une surélévation côté jardin à l'époque. Il est venu empiéter sur ma maison. Il n'avait pas de permis de construire. Il a fait. Et au moment de la vente, il a demandé le permis de construire. Il a affiché.
Ah, oui.
J'ai contesté devant le tribunal administratif. Et la mairie a dit bon, nous, on régularise. Voilà, c'est sympa. Oui. C'est sympa. Oui. Alors après, il aurait fallu que j'aille au pénal, enfin, des choses comme ça. Et voilà, c'est
encore autre chose du point de vue procédural.
Mais c'est pas terrible. Hein.
Ah, ouais.
Et moi, j'ai deux expériences qui me semblent pas très, très réjouissantes. Ça s'est fait, normalement, il y a les pouvoirs de police. Parce que moi, quand j'ai averti la mairie, c'était au moment où les travaux se faisaient. Et j'ai pas eu de réponse. Et après, le type vivant, il fait son affichage, il a eu le permis. C'est quand même scandaleux. Non.
Oui, c'est
bah, il aurait dû y avoir pénalisation du type sans que j'ai même besoin d'intervenir. Rien du tout.
Et ça, en général, vous connaissez les collectivités,
le voisin, c'est un expert
sur le terrain en permanence.
Le voisin, c'est un expert en immobilier, donc il avait des connaissances.
Voilà, c'est très joué aussi. Alors, on s'est permis de filmer parce que donc nous, on est universitaires.
Mais si, c'est important, monsieur. Voilà.
Ouais, mais là, je pense que j'étais complètement...
Alors, en fait, quand on fait des...
Importante parce que c'est des traces d'une certaine ruralité qui existait dans ces secteurs extra-courts, quoi. Et c'est donc la question de monsieur, je l'entends tout à fait, mais quand on achète un produit comme cela, quand on achète ce type d'habitation, on ne peut pas transformer ce petit élément très fragile, très modeste, vraiment d'un type rural, en une maison 4 étoiles, quoi. C'est ça, c'est pas possible. Hein. Il faut aussi comprendre que habiter le patrimoine, c'est aussi le respecter. Et donc, trop le modifier...
Mais du coup, est-ce qu'il y a une adéquation entre le pouvoir d'achat de ceux qui pourront acheter ça parce que ça fait 40-50 mètres carrés? Et en gros, est-ce qu'une échoppe comme ça, c'est pas déjà trop cher pour en gros un couple avec un enfant? Enfin, est-ce que ça crée pas un décalage finalement, cette patrimonialisation, entre le pouvoir d'achat qu'il faut pour...
Voilà. Ceux qui viendront habiter là, sont des jeunes couples ou des petites... aujourd'hui, on voit beaucoup d'habitations en co-gestion. Ça peut être deux étudiants qui viennent acquérir un type de produit comme ça. On est dans du petit logement, mais on est après, en cœur de ville.
Et après, donc, si la famille évolue, elle déménage. C'est ça que ça signifie.
Voilà.
Il y a des
logements résidentiels en fait qui font que c'est plutôt des jeunes couples et des jeunes actifs, mais du coup
dans ce type de produit, voilà. Mais les familles, comme vivent dans les mêmes rues, les maisons qui sont à plus de 100 mètres carrés qui est là. C'est très désordonné, il y a des petites annexes qui sont venues se greffer avec le temps, qui forment une sorte de désordre. Mais là, on a une réelle séquence d'échoppes. S'il y en a une qui est surélevée, ça crée un sacré dégât paysager. Donc c'est sûr que on peut penser que ce n'est pas grave en soi, mais à force de disparaître, on n'aura plus cette qualité de vie. Là, j'entends pas un bruit, j'ai mon petit jardinet, j'ai même parfois ma petite voiture qui peut venir stationner. Si on sort, on se retrouve dans une rue très animée, un tramway très proche.
Donc ça, c'est un argument justement fonctionnel, malgré tout, plus que patrimonial, mais aussi fonctionnel.
L'usage, c'est des qualités.
La tranquillité, un peu l'intimité de l'espace. Que vous répondez, parce que finalement, la ville a toujours évolué. Voilà, celle d'aujourd'hui, c'est, pour ce qui se fait, ça n'est plus ça, mais quand ça s'est fait, c'était, j'imagine, différent de ce qui se faisait avant. Donc ça, c'est un argument que vous entendez, j'imagine, tout le temps aussi. Qu'après tout, pourquoi la figer, pourquoi faire un arrêt sur image sur ça, puisque ça, ça s'est construit un jour, et ces échoppes se sont construites un jour, et voilà. Et comment vous désamorcez ce côté de la ville en mouvement permanent, en régénération, et voilà, ça n'est qu'une suite de démolition ou de reconstruction, ou de construction neuve à un moment.
Ou de construction neuve à un moment, ah, qu'on pourrait tout à fait imaginer en vis-à-vis. Enfin, après, une impasse est maintenue si on y trouve des petits débords sur... Là, eux, les habitants ont souhaité conserver un jardin, parce qu'aujourd'hui, on est tous très fiers d'avoir un petit bout de potager, etc. Mais... si à terme quelqu'un voulait venir construire sur sa parcelle, on a de l'emprise constructible dans le vis-à-vis. Donc, on peut, alors en imposant une hauteur qui est maintenue par celle-ci, l'ancien vient faire référence pour l'insertion du nouveau. Et c'est comme ça que le dialogue se fait de façon douce. Je suis convaincue qu'un habitant ici n'aurait pas envie que des maisons à étage viennent en vis-à-vis.
D'accord. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas ce ressenti personnel de la qualité de l'espace, sans même parler de patrimoine, quoi. Enfin, à un moment, on peut se dire, voilà, il n'y a pas de raison d'arrêter le mouvement de la ville ici, et non seulement en construisant en face, mais après tout, enfin, aussi en faisant sauter cette barre d'échoppe, enfin, cette... voilà. Mais je vois bien l'intérêt personnel qu'il y a.
Oui.
Non, mais quand on parle voilà, de patrimoine, en fait, c'est, on l'a vu avec le monsieur tout à l'heure, finalement, c'est quelque chose d'un peu abstrait. Ouais. Et si ce n'est pas vécu personnellement et presque de manière intime, parce que ça renvoie parfois aussi à la famille, à son enfance, enfin, il y a plein de choses qui sont.
Oui.
Quand on parle de patrimoine et qu'on questionne souvent les gens, souvent, ça, ils reviennent à l'enfance. Il y a aussi des choses qui sont liées à ce qu'ils ont vécu quand ils étaient petits, que ce soit sur le patrimoine culturel bâti ou le patrimoine naturel, et puis après il y a vraiment le vécu.
Bah, c'est pour ça que c'est intéressé à cette notion d'héritage.
Ouais.
Parce que c'est tout ça, c'est concerné un héritage, concerné un souvenir d'une époque, notamment d'une époque de construction
comme ici. Mais là on est déjà sur un bien commun. Or, le rapport entre le bien commun et la propriété privée et la liberté de faire ce qu'on veut chez soi, c'est pas si, ça s'emboîte pas si facilement que ça.
Si facilement, la preuve.
Ouais. C'est la question d'intérêt général qui posait tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Oui, lui, il y voit la densité, la ville sur la ville. On compacte nos îlots.
Il regarde plutôt l'objet, j'ai l'impression, plutôt qu'un contexte urbain.
Un ensemble.
Ouais. Oui, parce que on est tous pareils. On va raisonner de manière globale et on ira facilement argumenter sur l'intérêt général quand on n'est pas personnellement concerné. Et puis quand tout d'un coup on a un projet de travaux, de construction chez soi, là tout d'un coup on est tous pareils. Hein. Je veux dire, on a quand même tendance à avoir à nouveau son intérêt. Enfin voilà, on raisonne à l'échelle individuelle. Et c'est pour ça que dans les phénomènes dans les processus de patrimonialisation, à la manière dont on s'approprie cet enjeu-là, mais avec des tas d'entrées, y compris sur le côté fonctionnel de ce qui fait ce patrimoine-là. Le recul par rapport à la circulation, le fait d'être quelque chose d'intime, d'avoir quelques voisins.
Tout en sachant que le jour où on est cinq, ça va être difficile de rester dans ce secteur.
Oui, puis en plus, on a quand même la possibilité, si on a une échoppe simple, comme on parlait, on a un enfant, on a quand même la possibilité, parce qu'avec les emprises, de surélever à l'arrière.
Oui.
On peut toujours faire une pièce à l'arrière. Pas déménager tout de suite, quoi.
Oui.
Ça évolue quand même, quoi.